Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bonjour à toutes et à tous. Alors dans notre enquête sur les écoles monastiques d'Égypte, eh bien les sources littéraires que je vous ai présentées les précédentes semaines se sont avérées de nature assez diverse. Des recueils de dits ou de vies de saints, dont on attend moins le reflet de la réalité que des exemples, des modèles, des exemplats édifiants, des récits d'historiens, dont on peut escompter plus d'exactitude, mais qui ne sont pas, on l'a vu, s'empuiser à leur tour dans ces textes hagiographiques et subir l'influence de leurs stéréotypes. Puis des règles monastiques qui, malgré leur fonction normative, ont de fortes chances d'offrir le tableau de pratiques qui ont réellement existé. Alors ces deux dernières sources, sources historiques et les sources, les règles monastiques, nous ont persuadé de l'existence d'un enseignement régulièrement dispensé dans les monastères qui, dans certains cas, ont pu également accueillir des jeunes de l'extérieur. Qu'en est-il des sources papyrologiques et archéologiques ? Les fouilles de monastères égyptiens, j'ai eu l'occasion de parler d'Apa Jérémie, ont en effet livré, entre autres, beaucoup de documents écrits. Ceci confirme-t-il les conclusions auxquelles nous sommes arrivés par le biais des sources littéraires ? Que nous disent-ils des lieux qui ont servi de cadre à cet enseignement et que nous disent-ils de son contenu, qu'il sera intéressant d'ailleurs de comparer aux conseils donnés par Pacôme, par Jérôme, par Basile. Peuvent-ils ou non confirmer la présence de jeunes laïcs ou en tout cas de jeunes ayant bénéficié d'une instruction dans le cadre du monastère ? Alors sur ce dernier point, la documentation papyrologique de nature scolaire, je dois dire, est décevante. Elle se contente de livrer des textes écrits sans nous informer sur le profil de ceux qui les écrivent, leur âge, leurs origines, leurs milieux sociaux, professionnels, etc. Seul le profil culturel, et j'entends par là évidemment la plus ou moins bonne maîtrise de la culture lettrée et de l'écriture tout simplement, seul le profil culturel est éclairé par la paléographie des textes et quand il ne s'agit pas d'exercice de copie mais de composition, par la qualité de la langue. Un document scolaire ne permet évidemment pas de savoir si celui qui l'écrit vient de l'extérieur ou appartient au monastère, s'il s'agit d'un moine qui apprend à lire ou à écrire ou d'un enfant dans la même situation. Pour obtenir ces informations, eh bien, il faut s'en remettre à d'autres types de sources, d'autres types de données, les documents ou les inscriptions qui témoignent, enfin les documents papyrologiques hein, ou les inscriptions qui témoignent indirectement de l'enseignement dispensé dans les monastères et propre à contenir des informations que j'appellerais contextuelles. Un seul texte, à ma connaissance, nous permet peut-être de répondre par l'affirmative à la question de la présence de jeunes venant de l'extérieur. Alors, il s'agit d'un ostracone qui a été retrouvé dans le monastère d'Épiphane, sur la rive ouest de Thèbes. Je reviendrai avec beaucoup plus de détails sur cet établissement dont je présenterai la documentation scolaire dans un cours ultérieur. Alors, ce document est un ostracone qui contient une lettre en copte qui est datable de la première moitié du 7e siècle, par l'écriture, par la datation, qu'on appelle la datation paléographique. Vous voyez qu'il est brisé, qu'il a été retrouvé brisé en plusieurs morceaux, seulement 8 de ces morceaux ont été retrouvés, raccordés ensemble, laissant la partie gauche du texte en lacune. Alors, essayons de voir de quoi il s'agit. Alors, je vous en donne la traduction, même si celle-ci, je dois dire, est obscurcie par les lacunes. Alors, voilà le texte en copte et la traduction. Alors, on commence par ces deux séquences grecques que j'ai eu l'occasion de, dont j'ai eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises, hein, le Kimu Gamma, qui est soit une séquence acrostiche de la formule « le Christ né de Marie », soit une formule isobséphique qui signifierait « Dieu sauveur ». Et puis, cette séquence est suivie par « copa theta », qui est un isobséphisme ou une isobséphie du mot « Amen ». Et ce sont deux séquences qui sont très souvent utilisées dans les documents et souvent en position initiale pour placer le document sous la protection divine. Alors, on passe ensuite au texte proprement dit. « J'ai reçu les lettres de ta sainteté. J'ai appris que tu étais en bonne santé et je m'en réjouis. Maintenant, conformément à ce que votre piété m'a écrit au sujet du jeune garçon, à savoir que j'écrive pour lui dans un livre, et là il y a quelque chose de sous-entendu, des mots ou des passages de l'écriture, je ne me souviens pas lui avoir écrit, alors là aussi quelque chose de sous-entendu, des choses qui seraient en dehors de l'écriture. Hein, et l'écriture, et le terme qui est utilisé dans ce texte, c'est le mot grec graphé, hein, qui signifie les saintes écritures. Donc, je ne me souviens pas lui avoir écrit ce qui ou ce, des choses qui seraient en dehors de l'écriture depuis qu'il est venu trouver mon humilité. Alors, c'est la façon dont on, la façon de parler à cette époque. Hein, on utilise des substantifs quand on s'adresse, qui exaltent la personne à qui on s'adresse et qui, au contraire, déprécient la personne qui écrit. Hein, donc, on parle de son humilité pour dire tout simplement moi. Voilà. Donc, depuis qu'il est venu trouver mon humilité, si ce n'est durant 2 jours ou à peu près, afin qu'il n'y ait pas de tromperie, je n'ai pas trouvé de livre en ce moment, sauf un livre de celui qui est parmi les saints, notre père Athanase, évêque d'Alexandrie. J'ai déjà eu l'occasion de parler de ce célèbre évêque qui a laissé une œuvre écrite très importante. Et justement, dans ce livre, nous dit l'auteur de cette lettre, il interprète le prophète. Bon, après, il y a une lacune, il a écrit les lacunes, etc. Et là, on entre dans une partie du texte qui est tellement lacunaire que je préfère ne pas vous lire la traduction, mais vous l'avez à l'écran. Et je reprends donc plus loin. « Puisque, à nouveau, tu as permis ou interdit à Kyrikos, le Seigneur sait que, depuis le jour où, et là, malheureusement, lacune, je n'ai cessé d'interpréter ou de réciter, je reviendrai sur le mot qui est derrière cette expression, pour lui et d'instruire Jacob sur ce qui lui est utile selon Dieu. Ma joie, et là encore malheureusement une lacune, c'est si ta révérence m'enjoint une chose qui, encore lacune, tardera à venir. Tu as écouté jusqu'à présent, ô frère. Pardonne-moi car je suis négligent. Je ne suis pas digne de venir embrasser l'empreinte de tes pieds, des pieds de votre sainteté. Le passage du tutoiement, vouvoiement est quelque chose qui est tout à fait normal dans les textes de cette époque. Pardonnez-moi, car je suis un jacasseur. Hein, le mot qui est utilisé en copte, en fait, c'est un mot grec fluaros. Je suis un jacasseur et j'ai écrit beaucoup de mots plus que ce que je devrais, mot à mot, qui ne sont pas à ma mesure. Bon, là, il s'excuse d'avoir écrit une lettre aussi longue. Ayez la bonté de vous souvenir de moi dans vos saintes prières afin que Dieu me rende digne de faire sa volonté, car je suis négligent. Je salue votre piété par mes très humbles lettres, par ma très humble lettre, pardon, jusqu'à ce que Dieu me permette de vous saluer en personne. Voilà. Alors, vous avez vu, le texte est abîmé. Très abîmé, souvent difficile à suivre, mais il semble certain qu'il soit question de l'instruction que l'auteur de la lettre donne à au moins un jeune enfant. Hein, le texte grec, le copte nous dit « chéré cui », le petit enfant. Instruction donc que l'auteur donne, semble-t-il, à la demande du destinataire de la lettre. Celui-ci lui a demandé d'écrire pour lui, hein, pour l'enfant, sur un livre, d'écrire des mots ou des passages tirés des Écritures. Alors, le commanditaire des cours a bien insisté sur le fait que le maître ne doit pas utiliser d'autres sources que la Bible, et ce dernier se défend d'avoir fait. Après un passage obscur où il est question de livres, l'auteur de la lettre revient sur l'enseignement qu'il dispense. Il dit qu'il n'a cessé, et alors là il utilise un mot grec, d'apangelein. Alors apangelein, ça peut signifier interpréter, mais ça peut aussi signifier réciter un texte. Donc il n'a pas cessé d'apangelein pour un certain Kyrikos et d'instruire un certain Jacob. Et il est probable que le jeune enfant dont il est question plus haut soit un de ces deux personnes nommées ici. Alors, cette activité d'enseignement dont parle cette lettre, eh bien, elle pourrait se déchiffrer graphiquement par un petit indice que vous avez dans le texte. Vous avez le mot pléon, qui est un mot grec, qui est accentué, ce qui est tout à fait remarquable dans les textes documentaires. Normalement, on ne met pas d'accent. Le fait que l'auteur de cette lettre utilise cet accent sans l'école, si je puis dire. Et j'ai souvent eu l'occasion de vous dire, dans ce cours, que les accents, normalement, ne s'écrivent pas, mais sont ajoutés dans les textes scolaires pour en faciliter la compréhension de la part de ses élèves. Et donc, ce serait peut-être un automatisme de cet enseignant qui a l'habitude d'utiliser des accents, ou c'est tout simplement aussi une façon de montrer, c'est un indice qui trahit, disons, le niveau culturel de notre épistolier. Voilà, alors le texte redevient clair malheureusement au moment où c'est le moins utile, c'est-à-dire à la fin, où on a les formules les plus banales de salutation. C'est un petit peu la malédiction du papyrologue. C'est toujours à l'endroit capital du texte où il y a une lacune, et puis quand le texte redevient complet, malheureusement, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas, heureusement. Nous n'avons pas le nom ni la fonction des deux correspondants. L'absence d'une formule introductive déclinant le nom de l'épistolier et de son interlocuteur peut s'expliquer si on a affaire soit à un brouillon, soit tout simplement à une lettre qui aurait été envoyée par l'intermédiaire d'une personne de confiance qui permettait de faire l'économie du prescrit épistolaire. Quand on donne à quelqu'un la lettre en disant « tu la remettras à un tel », c'est pas la peine de marquer sur la lettre d'un tel à un tel. Les périphrases honorifiques permettent cependant de combler cette lacune. Le destinataire est appelé « ta sainteté » ou « votre sainteté », « tek agiosune » en utilisant un mot grec, « agiosune » ou « teten agiosune ». Il est appelé aussi « votre piété » ou « ta piété », « teten » ou « tek labeia » ou « ta révérence », « tek theosebia ». C'est chaque fois des substantifs grecs qui sont utilisés. Ce sont des désignations qui conviennent à des religieux. En grec, votre sainteté est normalement utilisée pour un évêque ou pour un supérieur de monastère, tandis que les autres l'abbéa ou théosébia peuvent être employés pour des clercs ou des moines de divers degrés. Mais on assiste dans les documents coptes, et c'est le cas ici, on assiste à une dévaluation du titre d'agiosune, votre sainteté, qui peut être utilisé pour des clercs ou des moines de rang inférieur. Et je voudrais vous en montrer un exemple avec cet ostracone qui a été trouvé aussi à Thèbes, sur la rive ouest de Thèbes. C'est un ostracone, c'est une lettre qui est envoyée à un diacre, et l'auteur de cette lettre utilise l'expression « agiosune ». Ou par exemple, cette autre lettre qui provient du même ensemble, où on a aussi l'expression « votre sainteté », qui est Teten Agiosune, qui est utilisé pour un nanachorète ou prêtre qui s'appelle probablement Moïse. Aussi ne doit-on pas en conclure que le destinataire de notre lettre, hein, je reviens à la lettre, soit nécessairement un évêque ou un igoumène. Quant à l'auteur de la lettre, eh bien, il revendique des liens de fraternité avec son interlocuteur, à la ligne 27, il utilise l'expression « Passon, hein, mon frère ». Enfin, voilà. Pesson, par exemple, pardon, frère. Étant donné que l'ostracone a été retrouvé dans un monastère, eh bien, il est vraisemblable que les deux, celui qui écrit et celui qui reçoit la lettre, soient des moines, le destinataire de la lettre ayant peut-être, d'après le contenu, hein, une situation supérieure à son auteur, mais cela pourrait n'être que le reflet de cette rhétorique d'humilité, hein, qui est en vigueur alors dans ces milieux et à laquelle j'ai déjà fait allusion. Alors, il ressort de cette analyse que le destinataire a demandé à un de ses amis, vivant dans un monastère, de s'occuper de la formation d'un garçon, probablement pas novice, eu égard à son âge et au fait que son statut n'est pas précisé. Alors, il pourrait s'agir d'un enfant de sa famille ou d'amis à qui il accepte de rendre ce service, auquel cas il y a de fortes chances pour que l'on ait affaire à un laïc. Ces conclusions sont certes rendues fragiles par l'état du texte. Si elles s'avèrent justes, eh bien nous aurions là une preuve de la prise en charge par des moines d'enfants extérieurs au monastère à des fins d'enseignement. Alors, dans le cas que je viens d'examiner, c'est une lettre qui apporte des informations sur le profil de l'élève. Ces informations peuvent être aussi livrées par les inscriptions que l'on retrouve en grand nombre dans les ruines des monastères et qui constituent peut-être une des innovations les plus spectaculaires de la culture écrite de l'Antiquité tardive. J'aurai l'occasion dans les cours prochains de revenir là-dessus. Nous allons faire, non pas de la papyrologie, mais plutôt de l'épigraphie. Un exemple, je voudrais vous donner un exemple avec celle du monastère d'Apa Jérémie, dont j'ai brièvement parlé. Alors, Apa Jérémie, eh bien, c'est un des plus grands monastères cénobitiques documentés par des fouilles scientifiques que nous connaissions, grâce à la mission archéologique dirigée par James Edward Quibell au début du XXe siècle, sur le site de Saqqara. Donc, vous voyez où se trouve Saqqara, mais pas très loin de l'actuelle capitale de l'Égypte. Alors, voici des photos de la fouille, au début donc du XXe siècle. Hein, ceux qui ont peut-être eu l'occasion de visiter le site du monastère d'Apa Jérémie ne reconnaîtront pas le site. Ces fouilles ont été suivies plus tard par des travaux de nettoyage et de relevé dus à Peter Grossman dans les années 1970-1980. Alors, ce monastère, qui se trouve tout près de la pyramide à degrés de Djéser, hein, qui est ici, donc voilà où se trouve le monastère, hein, sur le site de Saqqara, ce monastère couvre presque 2 hectares. Et vous voyez ici un plan du monastère, ça continue même un petit peu plus au nord, et une photo du site actuel. Donc cet ensemble, hein, ressemble à une espèce de gros village par la juxtaposition de ces unités d'habitation qui s'étendent autour de l'église principale et d'autres salles communautaires, d'autres bâtiments communautaires. Alors, il a été probablement fondé au 5e siècle. Il est attesté à partir du milieu du 6e siècle et a fonctionné jusqu'aux alentours du 8e, 9e siècle. Alors, il a livré de magnifiques exemples d'art copte que vous pouvez voir pour une grande part au musée copte du Caire. Voici quelques fresques. Hein, je vous présente les relevés aquarellés qui ont été faits à l'époque de ces fresques, mais aussi de magnifiques sculptures, chapiteaux, piliers, etc., hein, qui sont parmi les plus beaux exemples de la sculpture copte. Et il a livré aussi un des plus importants ensembles d'inscriptions funéraires. Alors voici une vieille photo qui montre ces épitaphes, ces inscriptions funéraires encore in situ, hein, les dalles encore en place. Mais aussi, pas simplement des inscriptions funéraires, mais aussi de très nombreuses inscriptions gravées ou peintes sur de graffiti sur les murs des bâtiments. Ces inscriptions ont été éditées par Herbert Thompson. Plusieurs d'entre elles mentionnent une personne responsable de la cellule des enfants, comme j'y ai fait rapidement allusion dans un cours précédent. Alors, regardons d'un petit peu plus près ces inscriptions. La première, vous voyez, c'est une inscription, un dipinto à l'encre noire sur une pierre du mur de la pièce 792. Alors, je rappelle qu'une inscription peut revêtir plusieurs formes. Elle peut être gravée plus ou moins professionnellement. Et là, nous allons voir surtout des inscriptions qui ont été laissées par des gens, hein, qu'on pourrait appeler graffiti, donc incisés de façon souvent informelle. Ces inscriptions peuvent être aussi peintes, hein, sur les enduits des murs, et donc j'utiliserai plutôt le terme de dipinti, dipinto dipinti. Alors voilà cette inscription. Jésus-Christ veille sur mon frère Pamoun, mon frère Georges le Petit, celui de la cellule des petits. Le fils d'Appa, et là, manifestement, il y a une lacune ou disons quelque chose qui n'est pas clair dans le texte tel qu'il a été relevé. Alors, l'inscription qui nous intéresse a probablement été mal recopiée, hein, elle est ici, elle a été mal recopiée par celui qui a fait le relevé, ce qui a conduit l'éditeur à hésiter, il l'a traduit comme s'il s'agissait d'un nom propre, hein, un monsieur dont le nom commencerait par Patre, et se terminerait par Iné, Patriné, le jeune. Mais en fait, en note, il dit « j'en suis pas sûr » et il propose en fait la bonne interprétation. Et cette bonne interprétation, c'est-à-dire celui de la cellule des enfants, Patriné Cui, eh bien, est confirmée par deux autres inscriptions. Alors, celle-ci, qui est un dipinto à l'encre noire, hein, sur l'enduit du mur de la pièce 1717, « Dieu veille sur mon frère Cosmas ». Celui de la cellule des petits. Amen. Ce personnage, Cosmas, eh bien, se retrouve dans l'inscription suivante qui est dans la même salle. La voici. C'est un dipinto à l'encre noire, donc sur l'enduit de cette même pièce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Appa Jérémie et Appa Enoch, veillez. Hein, les deux saints tutélaires du monastère veillaient sur le frère Aaron en charge de la diaconie. Alors la diaconie, c'est tout simplement le service économique du monastère, hein, le bureau des affaires économiques. Donc en charge de la diaconie, veille sur son fils Appa Kyré, le chantre, sur Cosmas, le lecteur, hein, chante, lecteur, tout ça, ce sont des fonctions, hein, sont des ordres mineurs, j'aurai l'occasion d'y revenir dans la hiérarchie ecclésiastique. Et sur Cosmas le petit, nous le retrouvons, celui de la cellule des petits. Alors, Cosmas le petit, c'est tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de Cosmas, hein, les personnes à cette époque n'avaient pas beaucoup d'imagination pour les noms propres, et c'est toujours les mêmes qui reviennent, et donc on avait tendance à les différencier par des surnoms, soit le grand, le petit, ou d'autres surnoms. On aura l'occasion d'en voir d'autres. Alors, j'ai traduit littéralement l'expression copte patri enenkui, hein, celui de la cellule des petits, ou celui qui appartient à la cellule des petits. Alors, les petits désignent ici, hein, les jeunes enfants. Les personnes citées dans ces trois inscriptions sont donc chargées de la cellule des enfants. Alors, on est tenté de rapprocher cette expression d'une des règles de chénouté. Hein, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce ce personnage important qui a été le supérieur du monastère blanc en Moyenne-Égypte, et qui a laissé donc des règles. Et dans une de ces règles, eh bien, une de ces règles s'adresse à ceux qui sont chargés de la supervision des jeunes enfants. Alors là, ce n'est pas Shérin Kui qui est utilisé, mais c'est Shérin Shem qui veut dire en fait la même chose. Alors, on a donc affaire à un responsable des enfants regroupés ensemble. Et le mot « cellule » qui est utilisé dans nos inscriptions, le mot « cellule » pouvait désigner une unité administrative interne au monastère qui rassemble un petit nombre d'individus vivant ensemble, qui est un peu l'équivalent, qui pourrait être, mutatis mutandis, l'équivalent des maisons dans le système pacomien. J'avais déjà eu l'occasion de vous en parler. Dans le contexte du gigantesque monastère d'Apa Jérémie, eh bien, la cellule des enfants serait le quartier où résidaient les enfants vivant au monastère. Alors Herbert Thompson pensait même que l'expression pouvait désigner le bâtiment le plus caractéristique des activités des enfants, à savoir l'école. Alors si cette hypothèse n'est pas en soi nécessaire, elle pourrait être malgré tout confirmée par un dipinto qui concerne un certain Cosmas présenté comme Sar. Sar, en copte, ça veut dire le maître, notamment le maître d'école, et c'est l'équivalent copte de Didaskalos, du grec Didaskalos ou Kategetes. Alors voilà ce graffito qui a été incisé sur le chapiteau de la colonne 3 de la salle 1776. Cosmas, Pesar, le professeur. Alors s'il s'agit bien du même personnage que celui de l'inscription que je vous ai présentée juste avant, hein, où il est dit celui de la cellule des enfants, eh bien nous aurions alors la preuve que le chef de la cellule des enfants serait bien leur professeur, le Sar, et que cette cellule pourrait bien être l'école, ou en tout cas inclure l'école. Quoi qu'il en soit, l'existence d'une école au sein de ce quartier est confirmée par d'autres inscriptions où apparaît l'équivalent grec de Sar, hein, je viens d'y faire allusion, le kategetes, le professeur. Alors, regardons ces inscriptions. Celle-ci, qui est un dipinto à l'encre noire sur le mur extérieur de la pièce 1775, « Mon frère Apakiré », et alors d'après l'édition, il semblerait qu'il y ait une lacune, « chantre et professeur », lacune, « amen », ainsi soit-il. Mais en fait, cette lacune ici ne devait pas exister, puisqu'en fait, si on enlève la lacune, on a Apakiré, chantre et professeur, et on retrouve le même personnage que dans l'inscription de la salle 1777 que je vous ai présentée, hein, le chantre Apakiré, dont on découvre ici qu'il était aussi enseignant. Et il apparaît, ce monsieur Apakiré, dans une dernière inscription avec les mêmes déterminations. La voici. C'est un dipinto à l'encre rouge sur le mur de la pièce 700F. Jésus-Christ veille sur mon frère Apakiré, le chantre et professeur. Alors Apakiré n'est pas le seul professeur attesté à Apa Jérémie. Les fouilles ont exhumé l'épitaphe d'un certain Foibamon, la voici, qui est une stèle calcaire, hein, qui a été trouvée dans le sol de la salle 1772S, après l'invocation de la Trinité, des archanges, des patriarches, des prophètes, et tout ça prend 21 lignes, ou plutôt 23 lignes, eh bien, on lit à la fin ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire « Aie pitié de l'âme de notre bienheureux frère, le diacre Foibamon, professeur, il a trouvé le repos en ce jour, le 28 du mois de Faofi, de la 14e indiction, l'an 492 de l'ère de Dioclétien. » Et alors là, on a une chance inouïe, on a une date. Hein, l'ère de Dioclétien, qui est aussi appelée l'ère des martyrs, du fait que Dioclétien passe pour celui qui a instauré les plus grandes persécutions de chrétiens, eh bien cette ère, en fait, commence l'année d'intronisation de Dioclétien, c'est-à-dire 284. Et donc là, l'an 492, hein, vous rajoutez à 284, on obtient 775, puisqu'en fait on est au mois d'octobre, 775. Et donc voilà, on a une inscription qui date du 8e siècle. Alors, toutes ces inscriptions utilisent, pour le mot que j'ai traduit par « professeur », le grec « kateghetes », qui est un mot sans ambiguïté. Hein, nous avions vu l'an dernier qu'il désigne un enseignant privé, hein, par opposition aux professeurs dans des écoles publiques, et que ce mot était employé pour le maître d'école, par exemple dans les Sénètes, hein, vous vous souvenez de ces colloquia qui sont conservés par les Hermeneumata, hein, vous vous souvenez de ces petites scènes, ces petits « j'arrive à l'école, je suis entré, j'ai dit bonjour maître », eh bien maître est traduit en latin « magister » et en grec par « kateghetes ». Que ce soit le mot en usage dans le monde dans le monde séculaire, qui soit utilisé ici, montre a priori que les tâches de cet enseignant n'ont rien qui les distingue de ses homologues laïcs. On notera par ailleurs qu'Apa Kyrée, en plus d'être kateghetes, est aussi chantre, hein, psaltes en grec. Alors, ce cumul de fonctions est très intéressant. Le chantre, dont l'office est de chanter les psaumes, appartenait aux ordres mineurs du clergé, hein, même si certains textes donnent l'impression qu'ils n'en faisaient pas partie. Et pour ça, pour cette discussion, je vous renvoie à Eva Wyszybska, un article sur les ordres mineurs dans l'Égypte, dans l'Église d'Égypte, qu'elle a publié en 1992. Mais peu importe, il se trouve que les psaumes ont vite acquis une fonction de texte de référence dans l'éducation chrétienne. On a vu qu'il faisait partie des textes à apprendre, hein, par les personnes peu instruites qui entrent dans un monastère pacomien et à qui Pacôme ordonne de se soumettre à une espèce d'enseignement de rattrapage. Hein, vous vous souvenez ? On a vu, j'ai fait allusion aussi au fait que certains pères de l'Église recommandaient dans l'éducation des jeunes chrétiens l'utilisation des psaumes. Ce sont les premiers textes que Jérôme conseille d'enseigner aux jeunes enfants qui apprennent à lire et à écrire dans cette lettre dont j'ai déjà parlé, la lettre 107 qu'il adresse à son ami Laëta au sujet de l'éducation de sa fille Paul. Et que nous dit-il ? Ainsi faut-il instruire une âme qui doit devenir le temple du Seigneur, qu'elle apprenne à ne rien entendre, à ne rien dire, qui ne se rapporte à la crainte de Dieu, qu'elle ne comprenne pas les mots grossiers, qu'elle ignore les chansons du monde, que sa langue encore tendre soit imprégnée de la douceur des psaumes. Une partie de cet enseignement se faisait par des chants, hein, au point d'ailleurs que, vous en souvenez peut-être, les moines du monastère de Bet Abbé avaient peur, si une école s'ouvrait chez eux, d'être dérangés, hein, je recite la phrase, d'être dérangés par les chants, les chants des Alléluia, les psaumes, les répons, les harmonies des jeunes, hein, en train d'apprendre. S'ajoute à cela que l'office du chantre impliquait aussi un rôle pédagogique, comme nous l'apprenons par le canon 59 du pseudo-Athanase, à la version arabe. Les chantres ne chanteront rien d'autre que le livre des psaumes et ils enseigneront aux autres sans rechigner à chanter, afin que Dieu fasse sa demeure dans tout le peuple, de la tête aux pieds. Bref, le chantre n'était pas déplacé pour enseigner aux enfants, sous l'angle aussi bien des méthodes que du contenu de cet enseignement. Alors les kateghetta et les professeurs se retrouvent dans un autre monastère, celui de Bawit, en Moyenne-Égypte. Alors Bawit, voyez où ça se situe sur la carte, il s'agit de l'autre établissement cénobitique le mieux connu grâce aux fouilles menées depuis le début du XXe siècle, de 1901-2 à 1913, par le français Jean Cléda et son équipe, puis ensuite de 1976 à 1985 par une mission égyptienne, et à nouveau depuis 2003 par les Français grâce à une mission conjointe du Louvre et de l'Institut français d'archéologie orientale. Alors, c'est un site absolument gigantesque. J'ai eu l'occasion d'y travailler une saison. Il s'étend sur 40 hectares, dont seule une très petite partie a été fouillée, livrant des constructions dont les plus anciennes sont du VIe siècle et les plus récentes du XIIe siècle. La majorité se situant aux alentours du 6e, 7e, 8e siècle. Comme pour Apagérimi, les bâtiments dégagés ont livré des fresques. Alors voici une très belle, un très beau saint militaire à cheval, d'après le relevé à l'aquarelle qui a été fait sur le moment. Mais voici des photos de fresques encore bien conservées. Vous avez ici le fondateur, le saint tutélaire du monastère, saint Apollo. Voilà d'autres fresques que vous pouvez admirer au musée copte du Caire. Il a livré donc des fresques, mais aussi une multitude d'inscriptions. Alors, soit des graffitis, soit des dipinti, c'est le cas ici. Malheureusement, ces textes ont été publiés de façon dispersée dans de nombreuses publications, ce qui n'offre pas des conditions idéales pour leur étude. Alors, parmi ces inscriptions, eh bien, trois inscriptions coptes mentionnent un certain Anoup, qui vient d'Anubis, Anoup, avec la fonction de catéchétèse, de professeur. Alors voici ce graffito qui a été relevé dans la chapelle 19, paroi Est. Alors, dans la publication, on parle de chapelle, mais on s'est rendu compte assez vite que ces bâtiments intitulés chapelle ne sont pas nécessairement des chapelles. Alors, que nous dit cette inscription ? Anoup le Petit, le Bubal, alors là, c'est un de ces autres surnoms qu'on pouvait utiliser, le mot choche ici, pechoche, signifie le Bubal, l'antilope en copte. Certains pensent que ça pourrait être aussi un titre donné à certains types de moines, mais bon, peu importe. Et vous voyez qu'il est dit, peucataguetes, professeur. Ce graffito de la salle 6, paroi sud, quatrième panneau, est un petit peu plus long. Jésus, maître Anoup le Bubal, on retrouve le même personnage, le professeur, catéguétès, qui est orthographié de façon un petit peu approximative, Moué le chantre, et là vous voyez qu'on retrouve les deux fonctions dont je vous ai parlé associées à travers deux personnes qui sont citées en même temps. Que Dieu veille sur eux, en paix, amen, priez pour nous, pardonne-moi. Et bon, la fin de l'inscription a été mal relevée et mal publiée. En fait, il faut lire Konai Ebol, donc pardonne-moi. Et cette inscription, sans numéro dans la publication, qui est un dipinto à l'encre noire, qui a été trouvé dans la chapelle 34, frère Anoup, professeur, et là, l'inscription a été mal relevée aussi et mal lue. En fait, comme l'a montré Alain Delattre, il faut lire « Passon Anoup Kateguetes », mon frère Anoup, professeur. Et nous retrouvons donc notre Kateguetes. Au moins, un autre Kateguetes est attesté épigraphiquement à Bawit. Eh bien, il s'agit de celui qui est cité dans ce dipinto à l'encre rouge, sur le mur est de la salle 18, Victor le Petit, le Chaliou, fils du Chaliou, alors je reviendrai sur ce mot, le professeur de Bawit. Le professeur de Bawit, peu catéétès m pawet. Alors cette occurrence est extrêmement intéressante, à double titre. D'abord, l'expression le catéétès, le professeur de Bawit, donne à penser qu'il n'y aurait qu'un seul maître d'école en activité dans le monastère et par conséquent qu'une seule école. En tout cas, dans la partie réservée aux hommes, puisqu'il y avait aussi une partie pour les femmes, et donc il pouvait y avoir aussi une école, j'imagine, pour les jeunes filles. Alors, si tel est le cas, eh bien, ce professeur a dû avoir beaucoup de travail, puisque si l'on rapporte le nombre des enfants à la population du monastère, eh bien, ce monastère a pu contenir à son apogée 1000 personnes. Donc, vous voyez le nombre d'enfants que ça a pu représenter. Alors, ce chiffre a été critiqué, il a été avancé par Peter Grossmann, critiqué par Wyszypska, peu importe. Il y avait beaucoup, beaucoup d'habitants dans ce monastère, de moines, mais aussi de non-moines, et donc sûrement pas mal d'enfants. Ce qui veut dire aussi qu'il devait diriger une école où les niveaux se mêlaient les uns aux autres, comme cela devait être souvent le cas dans les écoles villageoises, ou même comme ça, c'est le cas, vous vous souvenez, peut-être dans ces petits dialogues des colloquia des Hermenemata, hein, on avait des enfants de différents niveaux qui intervenaient dans la même salle. Alors le second enseignement de cette inscription tient à l'autre détermination de Victor. En plus d'être maître d'école, eh bien, il officiait comme chaliot. Alors, qu'est-ce qu'un chaliot ? L'origine du mot est encore obscure, mais il semble se rapporter à un office qui était lié à la perception des impôts au niveau du monastère. La gestion des impôts, la perception des impôts, est une tâche qui impliquait de nombreuses écritures et la connaissance du grec. Je vous rappelle que le grec, pendant très longtemps, était la langue administrative et même durant l'époque arabe, a continué à être une langue de référence pour tout ce qui était administratif. Ce cumul d'activités le fait que la perception des impôts impliquait le fait de bien savoir écrire et de connaître le grec explique qu'on ait pu affecter à cette tâche le maître d'école. Et ce cumul d'activités est confirmé par un reçu d'impôt en grec qui provient justement de Bawit, hein, qui est un texte du 8e siècle, sur lequel le catéguétès Jean, le professeur Jean, a apposé son visa, montrant par là même son implication dans la gestion des affaires fiscales du monastère. Vous voyez ici sa souscription, ou son visa, plus exactement. Alors, je vous ai parlé d'Apa Jérémie, je viens de vous parler de Bawit. Le rapprochement entre le monastère de Bawit et celui d'Apa Jérémie sur le sujet de l'enseignement va même plus loin. Non seulement ces deux monastères avaient confié la tâche de maître d'école à un moine appelé catéguétès, mais les enfants y étaient regroupés dans un quartier appelé de façon identique. On l'a vu à Pa Jérémie, la cellule des enfants, comme en témoignent plusieurs contrats coptes de Bawit du 8e siècle, dans lesquels souscrit comme témoin un certain Basile, qui se présente comme Piot Etri Nekui, le père de la cellule des petits, donc de la cellule des enfants. Donc vous voyez que à Bawit aussi, il y avait une cellule des enfants. Cette fonction se retrouve dans les textes de Bawit sous l'appellation abrégée de Piot Enenkui, le père des petits. Le terme de père en copte, Eyot, servant à forger des noms de fonctions et équivaut presque au mot français responsable, donc responsable des enfants. Alors, ces enfants qu'on retrouve indirectement dans ces dipinti ou ces inscriptions ont laissé aussi des traces archéologiques. On a retrouvé dans la nécropole de Bawit des jouets. Vous voyez ici quelques figurines en terre cuite qui jouaient le rôle de poupées qu'on a retrouvées en nombre. Je vous renvoie, si cela vous intéresse, sur un article de Charles Palanque, note sur quelques jouets coptes en terre cuite qui a été publié dans le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale en 1903. Les cours que ces enfants ont suivis ont aussi laissé quelques traces, comme nous le verrons probablement, comme nous le verrons l'an prochain. Il se trouve en effet que un des plus beaux et plus complets cahiers d'école en copte provient, alors soit du monastère de Bawit, on n'en est pas sûr, soit de celui d'Épiphane. Et cette hésitation justement sur la provenance est significative eu égard aux convergences lexicales que nous avons relevés entre les deux établissements et qui correspondent certainement à des liens institutionnels très forts. Voilà deux folios de ce codex qui en contient beaucoup d'autres, mais soyez patients, je vous en reparlerai plus tard. On a même cru repérer la salle qui aurait servi à donner des cours à Bawit. C'est en tout cas l'interprétation que suggère très prudemment Loretta de Francia, l'interprétation qu'elle fait de la salle 41 qui se trouve dans le secteur méridional du monastère de Bawit. Et elle affirme cela, ou elle propose cela, en s'appuyant sur une peinture représentant un chat et des souris, et renvoyant à un conte qui connut en Orient une très très grande diffusion, et particulièrement dans des contextes éducatifs, justement. Et c'est la raison pour laquelle elle fait cette interprétation. Alors, c'est l'histoire d'un chat terrible promet de ne plus dévorer les souris, et donc pour l'en remercier, les souris viennent en procession lui présenter, et c'est des cadeaux, c'est la scène qui est représentée sur ce mur. Mais malheureusement, ça n'empêchera pas le chat de les dévorer et de déclencher une apocalyptique guerre entre les chats et les souris. Comme nous sommes dans la partie du monastère habitée par des femmes, eh bien, nous serions, selon Loretta de Francia, dans l'école des jeunes filles, ou en tout cas dans le quartier où celle-ci était élevée. Et effectivement, dans cette salle où a été retrouvé ce dessin, mais aussi dans les salles environnantes, les salles qui portent les numéros 41 à 46, eh bien, on a retrouvé un certain nombre de graffitis qui sont des graffitis avec des noms de femmes ou bien des appellations « qui », voyez, la petite, donc vous voyez, moi, Euphémie, et petite Judith et petite Storou, donc en fait il s'agit de jeunes filles. Voilà, il y en a toute une série, moi petite, voilà, Mariéou, etc., etc., petite Storou, etc. Bon. Alors, cette identification de cette salle avec l'école est néanmoins plus que douteuse. La pièce était considérée par son inventeur comme ayant abrité une écurie et plus tard un magasin aux vivres. On considère aujourd'hui qu'elle a servi d'atelier de tissage ou de fabrication de nattes, activité fréquemment attestée dans les ermitages ou dans les monastères. Alors, on a aussi proposé une autre identification avec la salle 18. La salle 18 où nous avons vu que le maître Victor avait laissé son nom. Eh bien, on a retrouvé dans cette salle 18 plusieurs inscriptions à l'encre noire et rouge qui semblent de nature scolaire. Alors, sur le mur nord, par exemple, eh bien, on a retrouvé des séquences très bizarres qui ont été considérées comme des jeux de lettres par l'éditeur. Vous voyez cette séquence de lettres qui ne veut rien dire en copte. Et même, quelquefois, on trouve des inscriptions coptes un peu bizarres qui sont des inscriptions cryptographiques, mais même en appliquant les codes de la cryptographie connue, on n'arrive pas à donner sens à cette séquence. Et là, ici, vous avez aussi trois lettres qui sont recopiées, mais en modifiant chaque fois leur position. Donc, et pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que c'est, d'où l'interprétation de l'éditeur comme étant une espèce de jeu de lettres. Bon. Et on retrouve sur le mur est de la même salle, eh bien, alors, quelque chose qui est tout à fait caractéristique d'une ambiance scolaire, on y retrouve un alphabet complet avec des lettres coptes suivies. Donc, vous voyez ici, alpha, bêta, gamma, etc. À la fin, les lettres coptes. Et puis ensuite, vous avez exactement la même chose, mais à l'envers. Et nous avions vu l'an dernier que c'était une des techniques utilisées par les maîtres d'école pour que l'alphabet devienne un automatisme chez les enfants, que de le mettre dans tous les sens. Et j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Alors, Victor aurait-il donné des cours dans cette salle ? C'est possible. Mais On retrouve aussi des alphabets dans d'autres salles du monastère, sans qu'il faille nécessairement les rattacher à des cours. Et par ailleurs, si Victor a bien donné des cours ici, eh bien, rien n'indique que ce ne fut pas à titre provisoire. Nous nous retrouvons donc confrontés au sempiternel problème de l'identification archéologique des salles de cours, des écoles, que j'ai abordées longuement l'an dernier, et qui tient principalement au fait que les activités d'enseignement ne laissent pas ou peu de traces archéologiques et qu'elles étaient accueillies dans des lieux peu caractéristiques et qui étaient susceptibles de varier. Nous sommes bien loin des écoles de la Troisième République qui essayent de s'inscrire visiblement dans le paysage urbain des communes. Aussi, la quête des bâtiments dévolus à l'enseignement dans les monastères est-elle une tâche vouée à l'échec? Mais elle peut, malgré tout, réserver quelquefois des surprises. L'informalité des lieux d'enseignement que nous avions relevés l'an dernier peut en effet prendre des formes extrêmes. Et je voudrais l'illustrer avec deux cas. Alors, je vais commencer aujourd'hui avec celui de Beni Hassan. Le 23 octobre 1828, Jean-François Champollion accoste de nuit avec les membres de la mission franco-toscane à Beni Hassan. Donc vous voyez, ça se trouve. Aux aurores, il gravit la pente qui mène au tombeau. Il en a fait un petit dessin, un petit croquis, vous voyez, le bateau est là, il monte aux tombeaux qui sont dans le rocher de la montagne. Et dans un tombeau qu'il numérote comme le numéro 10, celui de Neter Nert, qui fut administrateur du désert oriental durant la 12e dynastie, c'est-à-dire 19e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, Champollion fait une surprenante découverte au milieu des inscriptions hiéroglyphiques. Alors, voici ce qu'il nous dit, ce qu'il écrit. Hypogée numéro 10. Sur la paroi du nord, vers l'angle nord-est, j'ai découvert vers le bas, écrit à l'encre rouge, un tableau rédigé évidemment dans le but d'enseigner à lire. C'est un véritable abécédaire ou syllabaire ou croix de par Dieu. Alors la croix de par Dieu, c'est une expression qu'on n'utilise plus tellement, mais qui jadis désignait un alphabet au moyen duquel on apprenait à lire aux enfants et qui était dénommé du fait qu'il commençait par une croix. On dirait aujourd'hui béaba. Bon. C'est un véritable abécédaire ou syllabaire ou croix de par Dieu, grec et non copte, car les lettres Shai, Phi, Hai, Janja et Ori ne se trouvent point dans le tableau divisé en 7 registres, ainsi qu'il suit. Et alors, vous avez sur la partie droite de l'écran le relevé très soigné qu'il fait. Alors, c'est un relevé très schématique, mais l'interprétation qu'il en donne n'en est pas moins exacte, à un détail près, sur lequel je reviendrai. Alors, Richard Lepsius, l'autre fondateur de l'égyptologie moderne après Champollion, visita le site en 1842, donc quelques années après, et il évoque cette inscription sans l'éditer dans ses Denkmäler, ses monuments d'Égypte et d'Éthiopie, signalant que John Gardner Wilkinson l'avait préalablement mentionné. Il faudra attendre 1890-1891 pour que cette tombe, avec celle qui l'entoure, fasse l'objet d'une investigation systématique par les archéologues britanniques Percy Newberry et Willoughby Fraser dans le cadre d'une mission archéologique financée par l'Egypt Exploration Fund. Alors, la tombe de Neter Nert acquiert désormais le numéro 23 et le syllabaire est cette fois-ci soigneusement relevé. sans faire l'objet d'une photographie ni d'une édition. Or, ce que Newberry a constaté, c'est que les murs des tombes adjacentes étaient aussi couverts d'inscriptions coptes. Et je le cite, « d'inscriptions coptes se composant principalement des noms de la Trinité, de saints et de personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que d'ermites qui ont probablement habité dans les tombes. » Alors, on retrouve effectivement dans ces tombes les mêmes types de graffiti ou de dipinti que dans les monastères comme celui de Bawit. Que ces tombes aient été occupées par une petite communauté de moines ne fait aucun doute et a été confirmé par d'autres indices, notamment des ouvertures qui ont été opérées entre les différentes tombes et qui permettaient donc de passer de l'une à l'autre. Et notamment la tombe justement 23 il y a un trou qui permet de communiquer avec la tombe numéro 24. Donc voilà, une communauté monastique s'est installée dans ces tombes et vous comprenez maintenant pourquoi je m'intéresse à l'inscription de la tombe 23. Alors cette dernière n'a pas connu un sort éditorial, disons, qui soit à la hauteur de son intérêt. Champollion, Lepsius, Newberry la décrivent plus ou moins précisément, mais sans l'éditer au sens propre du terme. Il faut attendre 1992 pour que cette inscription soit pour la première fois éditée à proprement parler par Monica Azitska dans son recueil des papyrus scolaires coptes, que nous autres papyrologues nous abrégeons avec le sigle de P. Rhein Unterricht Copt, c'est le numéro 74. Mais cette édition dépend du relevé de Newberry et n'a pas pu s'appuyer sur une photo. Alors, c'est embêtant. L'inscription a été réexaminée, photographiée par Scott Bucking en 2009 et a fait l'objet d'une étude par ce dernier en 2012 dans un article intitulé « Towards an Archaeology of Bilingualism on the Study of Greek Coptic Education in Late Antique Egypt » dans un volume publié à Cambridge en 2012. Et elle a fait aussi l'objet d'une étude de quelques pages par Liliane Larsen en 2018, hein, dans ce volume qu'elle a elle-même co-édité. Donc son article s'appelle « Excavating the Excavations of Early Monastic Education » et c'est publié donc dans le volume qu'elle a co-édité avec Robinson, hein, « Monastic Education in Late Antiquity » que j'ai eu l'occasion de citer à plusieurs reprises, hein, publié en 2018. Malheureusement, les images de Bucking sont inédites. Il dit qu'il a vu l'inscription, qu'il a photographiée, mais il ne donne pas les photos. Quant à Liliane Larsen, eh bien, elle donne dans son article des photos qui ont été prises par Hugo Lundhauk, mais ces photos sont floues, comme vous pouvez le voir, ou, ça c'est la deuxième photo qu'elle publie, quasiment inexploitable. Bref, cette inscription mériterait une réédition faite sur un nouveau relevé et accompagnée de photos, ce que malheureusement je n'ai pu faire, mais vous verrez que ça ne nous empêche pas malgré tout de corriger ce que les prédécesseurs ont pu en dire. Voilà, donc je vous présenterai cette inscription, vous verrez, extrêmement intéressante, la semaine prochaine. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.